France Inter.
Bonjour à tous, c'est Denis Chessoux. Parole de Piaf, c'est un podcast en 6 épisodes. Aujourd'hui, elle s'apprête presque à nous quitter. Qui ça ? L'hirondelle.
Je vis au milieu des hirondelles. Ça me permet de les observer. Mais il y a toujours une qui est timide, une qui est téméraire. Et je sais, une année... Donc il y a une nichée qui niche carrément dans la maison en fait. Donc on n'a plus de porte. Enfin bon, c'est un peu compliqué. Il faut mettre des cartons pour gérer les cacas, les allées-venues, etc. Et une année, elles avaient eu 6 petits. Le nid s'est cassé la gueule. Donc il a fallu mettre un panier, ramasser les petits. Enfin, on leur a filé un coup de main. Ils sont là, ils vous font confiance. Même les petits vous font confiance. Alors j'en ai ramassé un il n'y a pas longtemps. Ils s'agrippent vraiment à votre doigt. Mais à partir du moment où ils ont choisi... de vivre avec vous. Nous, ils sont au pied de l'escalier de la chambre. Tout à l'heure, quand je suis allé dans la maison, ça y est, il y en avait une qui était dans la chambre. Ils aimeraient bien nicher au-dessus du lit. Non, ça c'est un peu trop, vous imaginez bien. Bon. Et alors, elles ont voulu faire une autre nichée. Refaire un nid. Elles ont commencé à faire un nid. Elles n'ont jamais le temps de faire le nid et tout ça. Donc ce que j'ai fait, c'est qu'on a mis une plateforme d'osier que j'ai clouée au plafond. Alors, c'est rustique, hein, chez nous bien. Et je suis allé dans le jardin et j'ai mélangé du foin avec de la glaise. Je leur ai mis un tas, j'avais jamais fait ça. Et en fait, elles ont fabriqué leur nid, elles n'avaient plus besoin de faire les allées et venues. C'est incroyable.
Ah ouais, je vous le dis, donc la nature chuchote à vos oreilles. Là, ce sont les hirondelles. Vous avez entendu Christophe Gatineau, alors qui est un naturaliste qui a écrit L'éloge du ver de terre et L'éloge des abeilles. Il n'a pas encore écrit L'éloge des hirondelles, mais ça viendra. Donc ça, c'était chez lui en Haute-Vienne. Et on s'intéresse donc à l'accent circonflexe qui est l'hirondelle de l'écriture. Ça, c'était Jules Renard qui le disait, avec des petits ronds dans l'air avant de retrouver donc son nid d'hier. Mais ça, ce sera pour un peu plus tard. Donc on fête le départ de ces hirondelles qu'on peut croiser dans presque tous les ciels du monde. Alors elles vont déménager vers le sud, le Maghreb, l'Afrique subsaharienne. Et là, je rencontre Grégoire Loïs, un scientifique du Muséum National d'Histoire Naturelle. Alors, rendez-vous à la ménagerie du Jardin des Plantes pour rejoindre Grégoire Loïs. Bonjour Grégoire.
Bonjour Denis.
Alors vous êtes un chercheur, hein, comme on dit.
Donc... Alors, oui, quasi-chercheur. Je travaille effectivement dans l'équipe qui fait le suivi des espèces communes et notamment des oiseaux communs.
Et alors, on se dit, ménagerie, alors on passe devant les lamas, on passe devant le taquin du Sichuan. Ah ouais, alors là on passe devant les félins. La panthère, des neiges.
Et dans cette petite guitoune qui garde la porte ouverte, eh ben, il y a des hirondelles qui ont niché. Voilà, un couple d'hirondelles de cheminée. Sachant que l'hirondelle de cheminée dans Paris, c'est la plus rare des hirondelles. Hein. Il y a deux espèces d'hirondelles qu'on peut voir dans Paris qui sont nicheuses, l'hirondelle de fenêtre, où il reste des nids, ça et là, des petites colonies. Souvent, c'est assez grégaire pour nicher, comme l'hirondelle de cheminée. Et l'hirondelle de cheminée, elle est extrêmement rare comme nicheuse dans Paris, ce qui n'était pas du tout le cas il y a un siècle ou un peu plus.
Oui, parce que là, on avait des chevaux, c'était l'attraction hippomobile, et donc il y avait des croix de partout, c'était un régal.
Exactement. Il y avait des chevaux, il y avait des hirondelles vraiment régulières partout, nicheuses dans Paris. Ça a fini un petit peu à l'entre-deux-guerres. Et puis, ce qui se passe aussi depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, eh ben, c'est des diminutions des populations d'hirondelles, y compris dans les campagnes.
Alors on connaît les causes, hein. Ça c'est évidemment ça.
Voilà, on connaît les causes, en fait elles crèvent de faim, elles n'ont plus rien à bouffer. Et la polyculture élevage qui maintenait de la nourriture, les granges ouvertes, etc. Et puis les champs qui étaient pâturés, qui fournissaient non seulement par émergence de la nourriture avec les insectes qui émergent du sol, mais aussi des lieux de chasse quand il pleut, parce qu'en fait des vaches, elles broutent l'herbe, mais elles broutent aussi le feuillage. Et finalement, on se retrouve avec des lisières, là où il y a des arbres, avec une taille très régulière à 2 mètres, ce qui permet aux hirondelles de chasser en dessous quand il y a des intempéries.
Alors nous, on l'a joué un peu à l'envers. Hein. Donc là, on est fin septembre, et c'est vraiment le départ total de ces fameuses hirondelles.
La nidification s'est finie il y a déjà 2 mois. Ouais. Les hirondelles se rassemblent, et se sont rassemblées plutôt sur les points d'eau, dans les roselières... Et c'est bientôt le grand départ avec, pour 99% de la population d'hirondelles, la traversée du Sahara.
Ouais, et là, il y a de la casse.
Beaucoup, beaucoup de casse. Là. Effectivement, la traversée du Sahara, ça laisse les hirondelles qui sont pas bien préparées, les jeunes qui n'ont pas un taux d'engraissement suffisant. Il n'y aura plus rien à bouffer pendant toute cette traversée du Sahara. Il peut y avoir des vents contraires, ça peut être assez compliqué. Il y a assez peu d'oasis. Et d'ailleurs, si on a la chance d'aller dans le désert et de fréquenter des oasis au moment de cette traversée, on a des hirondelles qui sont posées à hauteur d'homme un peu partout, qui sont complètement épuisées. et qui essaient de se restaurer avant de repartir.
Elles ont intérêt donc à manger avant, c'est-à-dire qu'elles vont manger quoi facilement un tiers de leur poids, elles font quoi, une vingtaine de grammes, non sinon,
ouais, c'est ça. Et puis elles vont accumuler ouais, jusqu'à 40-45% de masse graisseuse, une graisse qui est très facilement mobilisable, et donc elles peuvent mobiliser en vol. Elles volent activement deux jours, ce qui n'est pas le cas de tous les passereaux, il y a des passereaux qui migrent de nuit. L'hirondelle de cheminée, elle migre deux jours et activement, et elle peut faire quand même plusieurs centaines de kilomètres par jour.
Et Grégoire, ce qu'on appelle les filets, qu'est-ce que c'est ?
Alors ce sont les deux plumes, les deux rectrices, les deux plumes de la queue, ce qu'on appelle les rectrices, et ce sont les deux plus externes. Il y a 12 rectrices chez l'hirondelle de cheminée, et les deux plus externes qui dépassent plus de deux fois la longueur. Hein, et plus on va vers le nord de l'Europe, plus elles sont longues. C'est ce qu'on appelle les filets, et qui sont en général plus longs chez les mâles, et qui sont un accessoire de séduction de la femelle quand le mâle revient de sa migration courant mars pour aller sur les nids dès début avril, être présent dès que les femelles arrivent, un petit peu juste après. Et c'est un accessoire de séduction pour essayer de trouver la compagne avec laquelle il va élever des jeunes dont il ne sera pas systématiquement le père.
Ouais.
C'est un peu volage, les hirondelles. Donc en fait, c'est un couple qui élève les jeunes. Alors évidemment, ils sont tous de la mère, parce que c'est elle qui pond les œufs. Mais dans les œufs, il peut y avoir aussi d'un papa voisin.
On ne va pas rechercher dans l'état civil. Quoi.
Voilà.
Grégoire, moi je suis une hirondelle, je suis un mâle. J'arrive avant ma femelle ici, dans ce lieu. Comment je fais valoir mon titre de propriété? Parce qu'il y a quand même d'autres mâles qui sont arrivés.
Alors effectivement, là c'est la lutte. Hein. C'est le sexe ou la mort, ou le sexe et la mort. Et là, il faut vraiment bagarrer. Il faut y compris voir tricher. C'est-à-dire que si on voit que la dame de nos cœurs est attirée par un autre mâle, on pousse un cri d'alarme, comme s'il y avait un faucon hobereau qui arrivait, histoire de perturber la rencontre.
Ah.
Donc il n'y a pas que de la bagarre, il y a aussi de la ruse.
Ouais.
Ouais, ouais. Et effectivement, alors tout ce monde-là se bagarre, et puis au moment de la nidif...
J'aime bien la nidif.
Ouais.
C'est bien. Non, mais c'est vos termes à vous. Enfin.
Voilà, au moment de la nidification...
S'il vous plaît.
tout ce monde-là fait des allers-retours, comme ça, jusqu'à plusieurs centaines d'allers-retours par jour pour nourrir les jeunes, les uns à côté des autres, sans bagarre. La bagarre, c'est vraiment au moment de l'accouplement et au moment où il s'agit de convaincre une femelle, puisque c'est les mâles qui arrivent les premiers sur les nids et qui, en quelque sorte, exercent leur droit de propriété. Hein, ouais. Et c'est au moment où les femelles font leur choix entre tel et tel mâle.
Alors avant de se faire une petite nidif, hein, comme vous dites, là je vais peut-être chercher dans ma caisse de partition et je vais changer de chant quand même.
Alors tout à fait, ouais, il y a le chant nuptial, hein, qui a, alors beaucoup de zvit, zvit, zvit dans tous les sens comme ça, et qui finit souvent avec une espèce de petite cresserelle descendante là. Et donc c'est des vols en groupe où tout le monde chante et on se repousse et on s'attire, on exhibe ses filets, on exhibe les taches blanches qu'il y a à la base de la queue aussi. Il y a des chercheurs qui ont pu montrer qu'effectivement, des longs filets bien symétriques, c'était un signe de bonne santé. Et donc, les hirondelles femelles cherchent des mâles en bonne santé. Et là, il y a les choix d'appariement qui se font, avec ce petit caractère un peu coquin des hirondelles, c'est-à-dire que les femelles n'hésitent pas à s'apparier avec plusieurs mâles, même si elles ne choisissent qu'un seul mâle pour pondre les œufs. Donc, elles choisissent un mâle avec son nid pour pondre les œufs, mais tous les œufs pondus ne sont pas forcément du papa et du propriétaire.
Ah, vous ne me direz pas quand même que vous n'en savez pas plus sur les mœurs des hirondelles. Alors elles reviennent dans le nid l'année précédente, c'est partiellement vrai, mais ça suppose quand même que les nids ont été conservés et protégés. Vous entendez, c'est du Heindel. Et c'était quoi? C'est les hirondelles arrivent de Heindel. Non, c'est très très raccord tout ça. Je vous emmène maintenant dans le Diois. Dans le Diois, donc nous sommes dans ce très beau département de la Drôme, à Beaumont-en-Diois. Et si je vous dis QBC, ça veut dire quelle belle compagnie. Et quelle belle compagnie, c'est la fabrique de François Morel, qui est un formidable raconteur d'oiseaux et aussi fabricant d'apôtres. Bonjour à vous.
Denis, bonjour. L'hirondelle, on dit que c'est l'oiseau qui fait le printemps. C'est pas sûr, parce que des fois le coucou arrive avant, ça dépend. L'hirondelle, elle vient chez nous passer le printemps et l'été pour se reproduire et pour nous débarrasser des insectes. C'est le meilleur insecticide qu'il soit, l'hirondelle. Donc il faut leur laisser le libre accès. Quand on a une grange, on laisse les portes ouvertes et l'hirondelle, qu'on appelle l'hirondelle des cheminées, va rentrer dans la grange et va nicher en dessous de la poutre. Elle s'installe, elle fait un petit nid avec de l'argile qu'elle trouve par terre et puis un petit peu d'humidité et elle construit et elle s'installe. L'hirondelle, ça babille. C'est vraiment typique, hein. Donc c'est à la fois un petit cri de contact et un petit chant. Celle-là, c'est l'hirondelle rustique, qu'on appelle aussi hirondelle de cheminée. Les ornithos ont mis des noms, ils changent les noms comme ça. L'hirondelle cheminée parce qu'autrefois, elle nichait dans les grandes cheminées des châteaux, dans les grandes fermes. Elle venait s'installer dans l'intérieur de la cheminée. C'est comme ça qu'on l'a appelée l'hirondelle de cheminée. Et on a une hirondelle qui est presque pareille, mais qui est un peu différente, qu'on appelle l'hirondelle des fenêtres. Mmh. Elle construit ce petit nid en forme de demi-bol sous les génoises des maisons. L'hirondelle, un oiseau très, très, très aérien. Toujours en l'air, toujours en l'air, toujours en l'air. On les voit sur les fils de téléphone, sur les fils électriques. Mmh. D'ailleurs, bientôt, là, c'est la saison où elles vont s'en aller. Et il y a des regroupements d'hirondelles.
C'est pour ça qu'elles sont contre le câble, parce que ça, c'est enfoui.
Donc voilà, et justement, ça nous vient à penser, mais comment faisait l'hirondelle avant qu'on invente le téléphone?
Oui.
Eh bien, elles se mettaient dans les arbres. Beaucoup d'hirondelles étaient dans les arbres, et elles ont trouvé plus facile, quand on a mis des fils, de se mettre sur les fils. Mais comme maintenant, beaucoup d'endroits, on enterre les fils, elles vont revenir sur les arbres. Elles aiment aussi se mettre sur les roseaux. Donc les parents, les enfants, tout le monde va se regrouper et va repartir sur l'Afrique pour passer l'hiver. Pas tellement qu'elles sont malheureuses chez nous, certes il fait un peu froid, mais quand la température baisse, il y a de moins en moins d'insectes, de moins en moins de mouches, de moins en moins de... On appelle ça du plancton aérien. Ça grouille dans le ciel, on ne le voit pas vraiment, mais ça existe et elles s'en nourrissent. Et donc elles vont nous quitter, là, dans quelques jours, dans quelques heures presque... et traverser l'Espagne, et traverser Gibraltar, et traverser tout le Maroc, descendre, et s'installer peut-être au Mali, au Sénégal, pour passer de l'hiver.
Et si on veut protéger les hirondelles, bon, pour le couvert, là, elles se débrouillent, il y a la nourriture ou il n'y en a pas, mais sur le gîte?
Eh bien, on peut passer notre hiver à faire des travaux manuels, à construire des espèces de petits nids qu'on peut installer sous les gouttières de toit. C'est ça tout le problème du monde. Les gens en ont marre de marcher dans la boue. Donc, ils mettent du goudron. Donc, il n'y a plus de flaque. Donc, l'hirondelle ne peut plus aller chercher un petit peu d'argile, un petit peu d'eau pour construire son nid. C'est tout bête, mais c'est ça, ce monde moderne. Bien sûr, il y a de moins en moins d'hirondelles parce qu'on a asphalté la vie. En asphaltant les parkings, il y a moins d'eau qui rentre dans la terre, les nappes phréatiques sont moins alimentées, et ainsi de suite. Tout est comme ça. On a de moins en moins de moutons, donc il y a de moins en moins de mouches. Les hommes font tout ce qu'ils peuvent pour tuer les mouches, tuer les insectes, parce que ça les dérange. Ok, mais les oiseaux en ont besoin, ils sont là pour venir les manger. Laissons-les faire. Les gens, les résidents secondaires, ils achètent une vieille ferme. Et là, le premier truc qu'ils font, ils ferment. Ils bouchent, on bouche les trous et tout. Non, laissez ouvert l'œil de bœuf. La chouette va venir dedans, c'est parfait, elle va vous manger les souris. Laisser ouvert la grange, le dessus de la grange. Pourquoi il y avait deux portes? Une porte en haut, une porte en bas. La porte en bas pour pas que le cheval sorte, mais la porte en haut pour qu'il sorte la tête et que l'hirondelle rentre.
François Morel, si je suis un oiseau, aujourd'hui, c'est quoi mon avenir?
Denis, c'est pas compliqué. L'oiseau, c'est la liberté. Être un oiseau, c'est la liberté. Vous êtes là, posé sur cette petite tulle. Vous vous envolez, vous allez où vous voulez. Vous revenez quand vous voulez. Vous revenez pas si vous voulez pas. C'est la liberté, les oiseaux.
Et nous retrouvons Grégoire Loïs, chercheur au Muséum National d'Histoire Naturelle. Grégoire, le signal du départ.
On y va, top chrono.
Oula, ouais, c'est peut-être ça. Oui. Oh là 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 là. Oui. Mais il va se taire. Bon, pardon.
Alors, le signal du départ, il est donné par le rythme circadien, la durée du jour, et par la météo en partie. C'est surtout le rythme circadien. Et probablement que les individus les plus expérimentés par rapport aux premières années, c'est-à-dire aux individus qui ont quelques mois finalement, il y a des individus qui partent, qui ont 3 mois et qui vont comme ça se taper 5000 km par monde et par vous. Et le signal du départ est probablement donné par les individus les plus anciens, et c'est vers le sud, par les vallées. Par les vallées ou en suivant les zones humides, c'est-à-dire probablement que la Brenne, c'est aussi un lieu qui est largement survolé. Il y a effectivement les hirondelles qui arrivent et qui sont poussées un petit peu vers l'ouest, butent contre la côte et dans ces cas-là longent les rivages. Donc ça, c'est vraiment spectaculaire. Hein. La pointe de Grave, c'est des milliers, ouais. Des milliers et des milliers d'hirondelles qui passent chaque jour pendant cette petite fenêtre de passage. Et puis ensuite, direction Gibraltar, hein, vers le sud, ou direction la pointe de l'Italie ou les petites îles de Méditerranée.
Alors, ce qui les déclenche, c'est pas forcément le manque de nourriture ici.
Non, pas du tout. D'ailleurs, tout à l'heure, je disais qu'il y avait à peu près 99,9% des hirondelles qui allaient traverser le désert. Il y a quand même une petite poignée de... Alors, est-ce qu'on pourrait les appeler des éclaireuses? Dans tous les cas, des hirondelles qui passent l'hiver sur les côtes méditerranéennes de France, voire même sur les côtes atlantiques. C'est-à-dire qu'il y a quelques individus qui ne migrent pas. c'est probablement pas des nicheurs locaux, mais qui restent sur les rivages. Sur les rivages, il se trouve qu'il y a...
Sans être forcément une hirondelle dite de rivage.
Sans être du tout une hirondelle de rivage. Hein, c'est-à-dire, l'hirondelle de rivage, elle part strictement et on ne trouve pas de...
Et on la trouve plutôt dans les rivières.
Hein, on la trouve sur les berges. Fait des colonies, elle creuse des terriers. C'est soit sur les berges de rivière, soit dans les carrières où il y a des fronts de taille, soit aussi sur le littoral quand il y a des fronts d'érosion. Comme en Bretagne, il y a pas mal de colonies, comme ça, sur les plages. Donc les gens sont assis à la plage sur leur serviette tout l'été, puis ils ont des balais d'hirondelles de rivage au-dessus d'eux qui rentrent dans les terriers.
Alors des histoires d'hirondelles, vous en avez, non ?
Alors des histoires d'hirondelles, oui, j'en ai dans le désert, notamment dans le désert où on va faire un tour dans le désert, on est dans une oasis, et en pleine nuit, parfois en pleine nuit, on se lève pour aller aux toilettes, voilà. Et on allume la lumière dans cette espèce de petite toilette des oasis, sur le montant des fenêtres. Sur le porte-serviette, sur le robinet, des hirondelles de cheminée qui dorment. Ouais. Ça, c'est absolument... Et donc, on ne les réveille pas. Elles sont épuisées, elles sont placides. On pourrait les prendre à la main. Hein. On se garde bien de le faire, quoi. C'est juste magnifique. Elles sont au milieu de leur grand voyage.
Nos hirondelles ne traversent pas d'une seule traite. Hein. C'est-à-dire qu'elles vont faire 200, 300 km, aller 40-50 à l'heure.
Oui, c'est ça, exactement. C'est 40-50 à l'heure et c'est jusqu'à 400 km d'une traite. Ce qui est considérable, elles font partie des rares migrateurs qui volent même avec un vent défavorable contraire. Elles volent deux jours, pas forcément très très haut, ça dépend de la météo. Elles peuvent monter assez haut pour se déplacer, mais elles peuvent aussi voler quasiment au ras du sol dans le désert si vraiment le vent il est contraire et très défavorable.
Alors dites-moi, si je me prends pour un faucon aubreau, pas le pèlerin, hein,
non.
Mais le faucon aubreau, mon menu, il est varié ou pas ?
Il est assez varié, mais il est essentiellement constitué d'hirondelles, éventuellement de martinets et de chauves-souris, rarement, et aussi de libellules. Donc c'est hirondelles et libellules, et tout ça, ça se ramasse assez facilement, justement, à partir de début août jusqu'à fin septembre, sur les zones où le faucon aubreau vient chercher les hirondelles, c'est-à-dire les grandes roselières, les grandes zones humides.
D'accord. Donc là, il y a le cri d'alerte. Hein,
Cri d'alarme, tout le monde s'envole, tout le monde se planque. Néanmoins, dans la journée, il arrive à attraper une jeune hirondelle ou une hirondelle un petit peu pré-fatiguée. Hein. Il commence à faire le tri avant le grand départ. Comme les hirondelles, leur force, c'est leur glissade, leur virevolte, pas spécialement la vitesse, hein, mais les glissades, les grandes arabesques en vol, et ben le faucon aubreau, il s'est doté de longues ailes fines. Il est plutôt assez léger et il arrive à les suivre et à les rattraper au vol. C'est vraiment de la poursuite.
Qu'est-ce qu'on vous souhaite ainsi qu'à nos jolies petites hirondelles là. Encore 10 de plus là, ils sont groupés. Ouais.
On leur souhaite un bon vent et un bon voyage. Ouais. Un voyage sain et sauf.
À bientôt Grégoire.
À bientôt Denis.
Et si nous faisions la différence entre le martinet et l'hirondelle, Christian Couloumi est naturaliste dans les Hautes-Alpes. Il va nous dire tout ça.
Bonjour Christian Couloumi.
Bonjour Denis.
Alors, vous ne me regardez pas, et c'est pas plus mal d'ailleurs, parce que vous avez le nez et les yeux vers le ciel. Pourquoi ? Parce que nous regardons les martinets. Et là, c'est le moment, peut-être, du départ.
Eh bien, à ce qu'on voit, Denis, au-dessus de la maison, ici, dans cette belle vallée de la Durance, on voit un flux continu de dizaines d'oiseaux qui hésitent à partir, ils tournent, ils virent, mais quand même, ils vont vers le sud ou ici vers l'ouest, puisqu'ils prennent l'axe de la vallée. Et c'est très tôt dans l'été, hein. on est le 30 juillet, je disais, et déjà, ils s'en vont. Bientôt, ce seront les milans noirs qui les accompagneront, ou qui les précéderont, ou qui ils succéderont. En tout cas, on est en train d'observer une scène de la nature, toute simple, toute belle, avec ces oiseaux, extrêmement aériens, qui vivent tout le temps en l'air.
Il y a encore une cinquantaine encore qui passent.
Pourquoi ils partent si tôt ? Il y a toujours des insectes, l'été n'est pas fini. Parce que je pense qu'ils ont pris l'habitude de migrer, que c'est inscrit dans leur tête, tout comme le trajet qu'ils vont parcourir. Et bonne route à vous, les martinets. Tiens, encore, voilà.
Alors la différence quand même entre le martinet et les rondelles.
Alors il suffit de regarder et de décrire ce que l'on voit. Des battements d'ailes un peu vibrés, et puis des interruptions planées, avec des écarts de temps en temps, et puis cette silhouette avec des ailes en faux. Un martinet noir, ça peut faire 30 cm d'envergure à peu près.
Et pendant que le voyage se perd là sous nos yeux, ensuite, ils vont aller vers le sud, partiront Espagne, Afrique.
D'abord, ils vont rester dans le ciel, première chose pour le martinet. Il y a une composante verticale dans leur vie, et ils sont toujours en l'air, sauf pour se reproduire. La vie du martinet, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et pourtant, le martinet, dans les villes, partout, il y en a partout. Alors vous les regardez de manière un petit peu nonchalante, comme ça, en pensant que ce sont des hirondelles, peut-être. Ben non, ce sont des martinets.
Le nom scientifique du martinet ?
Alors le nom scientifique du martinet, c'est en latin, comme tous les noms scientifiques dans le monde entier, et c'est apus. Apus, ça veut dire pas de pied. Pourquoi sans pied ? Parce qu'il n'a pas trop besoin d'avoir des pieds, il vole tout le temps. Et ses pieds lui servent à s'agripper. Il ressemble, on l'a observé, à un petit aigle, à des griffes de rapace, à des cerfs. Il a le bec un peu crochu, mais puisqu'on parle de ses pieds, il a les pieds un peu velus, hein, de plumes comme ça, qui lui permettent de s'accrocher. Et il ne se sert de ses pieds que très rarement.
Oui, parce qu'en fait, il passe sa vie en l'air.
Il passe sa vie en l'air. C'est le rêve de tout le monde, ça. Et il ne redescend se poser sur cette terre que pour se reproduire.
Alors, notre oiseau, il copule en l'air ? Il s'envoie en l'air ou...
Exactement, il s'envole en l'air, en l'air. Il a toujours rêvé d'être une hôtesse de l'air, le martinet noir,
c'est ça, oui.
Et il le vit réellement. Quoi. Oui. Mais après, pour pondre, évidemment, les œufs, il ne peut pas les laisser en l'air.
Ah,
donc il les pond dans un nid, dans une anfractuosité, de rocher, sous un toit, souvent dans les villes et villages, c'est là que sont la plupart des martinets noirs. Et il va rester 2 mois à peu près, à s'occuper d'abord de couver ses œufs, puis ensuite nourrir ses jeunes, qui vont l'amener à faire des très grands parcours, parce qu'il n'y a pas toujours à manger à côté du nid. Donc il est amené parfois à faire des trajets de plusieurs centaines de kilomètres de rayon. Parce qu'en l'air, il vole tout le temps. Le compteur là, de kilomètres, c'est terrible.
Il dort en vol plané ?
Il dort également, il fait des micro-sommeils en vol. C'était observé, il y a des radars qui ont observé les martinets qui s'élèvent le soir très haut et puis qui dorment en l'air.
Alors ils continuent à passer et donc ce sont vraiment sûrement les derniers là. Hein,
alors chaque fois qu'on en voit un, on peut penser que c'est le dernier, mais peut-être qu'il y en aura un autre. Alors celui-là, on le regarde bien, on se le met dans les yeux, dans le cœur, en attendant les prochains qui seront, oulala, l'année prochaine, dans bien longtemps.
Parole de Piaf, ça continue avec un 5e épisode. Je vous convie à l'envol de l'aiglon dans les Hautes-Alpes. D'ici là, envolez-vous bien.